Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous voici au rendez-vous avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société démocrate. Pour participer à l'émission ou avoir des informations supplémentaires, vous pouvez toujours nous rejoindre au 514-273-4302, 514-273-4302. Sinon, vous nous écrivez à info@commercialmage-quebec.com. info@commercialmage-quebec.com. Au micro ce matin, comme d'habitude, Adj Zitouni et Roland Cazès, deux militants du MAJ. Avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui, chers citoyens, permettez-moi d'abord d'ouvrir une parenthèse concernant l'émission de la semaine passée, puisque nous avons reçu plusieurs appels au sujet de la diffusion de cette émission qui n'a pas eu lieu faute, selon l'équipe de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, de problèmes techniques. Donc nous vous invitons d'aller sur le site web du Mouvement Action Justice pour la réécouter. En deux mots, c'était le témoignage de deux agents de la sécurité publique qui, en appliquant l'article 260 sur la loi de la police, qui oblige les policiers de dénoncer les comportements déviants de leurs collègues. Et sans oublier de noter que l'omission de dénoncer un comportement fautif constitue une infraction à la loi sur la police rend son auteur passible d'une amende de $500 à $10,000. Mais malheureusement, la réalité, c'était autre chose. Et suite à leurs dénonciations respectives, nos deux policiers ont vécu une longue série d'harcèlements, d'isolements et de dénigrements de la part de d'autres policiers impliqués directement ou indirectement dans ce dossier. L'un des deux policiers, M. Guy Simard, est assigné à domicile depuis 7 ans, tout en recevant son salaire sans rien faire. Son collègue, M. Michael Golzarian, est finalement dans la même situation, mais il ne reçoit aucun salaire. Donc les deux policiers se sont adressés directement à vous, chers citoyens, pour la signature d'une pétition, puis ils se sont adressés au Premier ministre Jean Charest en espérant d'examiner ce dossier de près. Donc nous vous invitons à réécouter leurs témoignages sur le site de MAJ. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, avec un nouveau sujet qui nous ramène un peu en arrière à redécouvrir une partie sombre de l'histoire du Québec, tout précisément dans les années 30, 40, 50, où le gouvernement de cette époque, avec la complicité de l'Église, a condamné des nouveau-nés dès leur naissance à la prison à vie.
La réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non au vent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître, et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, les poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Ouvert à ma fenêtre et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps.
Donc pour ceux qui ne concernent, qui ne connaissaient pas toute l'histoire du Québec, il y a tout particulièrement une partie un peu trop sombre par rapport à l'ensemble de l'histoire. Donc une partie qui a surgi en surface à plusieurs occasions sous forme de manifestations, revendications, dénonciations, et les gouvernements succédés ont tout fait pour étouffer cette histoire qui hante le Québec depuis des années. Donc l'ex-premier ministre Lucien Bouchard disait en mars 1999 « C'est un regard tourné vers l'avenir qu'on cherche plutôt que vers le passé, compte tenu que le passé, il faut l'effacer par des excuses. » Donc imaginez-vous la réaction d'un historien qui entend cette déclaration. Pour résumer rapidement cette partie de l'histoire, il faut retourner évidemment un peu en arrière dans le temps. Nous sommes dans les années 30, donc le premier ministre du Canada à cette époque était Louis Saint-Laurent, et au Québec, l'Union nationale fondée par Maurice Duplessis en 1935, portée au pouvoir en 1936. Donc vous savez bien qu'à cette époque, c'était l'Église qui contrôlait l'éducation, les hôpitaux, les orphelins et d'autres services sociaux. Donc elle encourageait fortement la population à voter pour le parti de l'Union nationale, ce qui l'explique que Maurice Duplessis est demeuré Premier ministre jusqu'à sa mort en 1959. Au retour, celui-ci défend la position de l'Église. Donc il s'opposait fermement à l'adoption du programme fédéral des allocations familiales, qu'il disait être une atteinte à l'autonomie provinciale et à la conception chrétienne de la famille. Donc au départ, il y avait une complicité visiblement apparente d'intérêt entre le politique et l'homme de l'Église. Maintenant, ce qui nous concerne aujourd'hui de cette époque d'après-guerre, c'est le cas de ces enfants qui sont nés hors la relation du mariage. L'Église les considérait comme des enfants illégitimes, elle les a baptisés les enfants des péchés. Selon l'Église, ces enfants représentaient la honte de la famille et il fallait se débarrasser d'eux. Voilà comment les mères étaient condamnées d'abandonner leurs enfants à la naissance. Par la suite, des enfants sont placés dans les orphelinats sous la tutelle de l'Église, mais à un moment donné, ils étaient tellement nombreux, donc, parce qu'on parle quand même de 15 000 à 20 000 orphelins, calculés de l'année 34 à 54, que les sœurs de l'Église, à travers le clergé, ont demandé au gouvernement du Québec d'intervenir auprès d'Ottawa pour avoir de l'aide financièrement. Ottawa a refusé, puisque les orphelins n'étaient pas sur leur juridiction. Par contre, elle reconnaissait les débiles mentaux et voilà l'erreur impardonnable qui s'est déclenchée. Tous les orphelins de cette époque étaient déclarés des débiles mentaux, des alignés, des fous, pour que le fédéral vienne à leur secours. On parle d'un statut social. Donc, changement de vocation du jour au lendemain, les institutions qui s'occupaient de ces enfants sont converties à des centres psychiatriques, les chambres sont devenues des cellules, les fenêtres sont barricadées par des barreaux, les murs de la clôture ont grimpé de quelques mètres et le tour est joué. Donc voilà le début d'une descente à l'enfer. Ces enfants qui témoignent aujourd'hui de la plus grande atrocité de l'histoire québécoise ne sont pas prêts à tourner la page. Parmi ceux qui ont refusé une compensation financière de 15 000 $ conditionnelle de la part de notre gouvernement de ne plus jamais parler de cette histoire, l'effacer, si vous voulez, de la mémoire de notre société. Nous avons avec nous dans le studio M. Jean-Guy Labrosse, une seconde mémoire lourde de souvenirs de cette époque de noirceur. Il est l'auteur de 3 livres intitulés « Ma chienne de vie » publié en 1964, « L'orphelin esclave de notre monde » publié en 1978 et finalement « Le locos des orphelins sous le régime de Duplessis ». C'est un ouvrage qui est en plein chantier. Officiellement, M. Jean-Guy Labrosse porte toujours le statut de débile mental et aucun gouvernement jusqu'à présent n'a rectifié cette erreur. Bonjour, monsieur Jean-Guy Labrosse. Pour commencer, si vous voulez, comment vous décrivez en quelques mots les souffrances que vous avez vécues ou dont vous étiez témoin direct de cette époque? Et si j'ai fait une erreur, vous pouvez me corriger parce que vous êtes historien.
Pour le moment, non. Moi, j'ai décidé, là, avec l'entente que j'ai eue avec vous et Sylvain Lepage, de partir de ma naissance, comme on dit en bon canadien.
Oui.
Ça veut dire que moi, je suis venu au monde au 1435 rue Armers à Montréal. Et de là, ma mère biologique ne voulait pas signer l'abandon de l'enfant qui est à moi.
Elle a refusé.
Oui, elle a refusé, ça c'est officiel. Là, ils ont dit, vous signez l'abandon de votre enfant ou vous serez pointé comme une putain dans Saint-Jacques. Et c'est de là, en pleurant, elle a signé l'abandon de son enfant qui est à moi. Et j'ai été confié à la cloche Joville le 19 août 1939, la journée que je suis venu au monde. Et le 25 août, parce que j'étais sur un numéro du 19 août, aller jusqu'au 25 août, on m'a baptisé sous le nom Labrosse, ce qu'on appelait dans ce temps-là un faux nom, un nom bâton qu'on donnait aux enfants légitimes. Et c'est de là que j'ai commencé, comme on dit en bon canadien, vivre l'enfer. Je veux dire que par là, en 1945, on me brise un avant-bras, et les preuves, j'ai ici.
Oui, je l'ai vu, oui.
Et en 1946, on brise l'autre avant-bras, qu'on appelle celle-là.
Mais dans quelles conditions, M. Labrosse? Vous avez eu quel âge à ce moment-là?
J'avais 5 ans la première fois, puis après ça, j'avais 6 ans l'année suivante quand on m'a brisé l'autre avant-bras. Je me trouvais à la salle 34 à la crèche Joville de Montréal.
Oui.
Et j'ai appris aussi qu'il y avait eu une grève des gardes-bébés parce qu'ils ont découvert la rumeur s'est répandue à la crèche Joville qu'il y avait une sœur sadique qui s'attaquait à un enfant sans défense puis qu'elle le démordait pas cet enfant-là qui était à moi ici. Et c'est de là que, après la grève qu'eux autres ont faite, la main supérieure a pris cette sœur-là. Elle avait plus aucune juridiction, ces crèches, ces orphelinats, elle l'a envoyé à la maison mère à Châteauguay.
Est-ce que c'était la seule sœur ou il y avait plusieurs qui étaient dans le même...
Non, c'était la même sœur qui s'appelait à toi. Oui, oui.
Et vous avez vu qu'avec cette sœur-là de combien d'années dans le...
Moi, en 46, ils l'ont enlevé de là, ça veut dire, durant mes deux années qui restaient à la salle 34,
ouais.
Là, il y a eu une sœur correcte, là, okay. Puis pas trop dure et cruelle envers moi, là.
Mais après ça, vous étiez transféré ou vous êtes toujours resté dans la même place?
Vu que j'étais trop vieux pour la crèche de Beauville, on m'a transféré à
on
la salle...
On parle de 5 ans, c'est ça?
Non, 1949...
Non, vous avez eu l'âge de 5 ans à ce moment-là.
Quand j'ai été transféré à Côte de Liesse, j'avais 9 ans.
9 ans, c'est ça, vrai.
Bon. Alors, on m'a envoyé à la salle 6 à Côte de Liesse. Puis, pour la première fois, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est des patates rondes. Ça, c'est une croix à dire au souper. Ici, t'es fait à crèche d'Auville avec des patates pilées, t'en mangeras pas. Ou je vais te faire avaler tout rond.
Okay.
Alors, de là, je pleurais. C'est un beau de pleurer. Ici, c'est les politiques de Côte de Liesse, trois fois ce soir-là. Et le matin, quand tout orphelin qui s'est au lit, on leur donnait un bain d'eau fraîche et une volée. Puis je me rappelle d'un enfant que le médecin de famille a dit à sa Sainte-Croix, cet enfant-là, faut pas lui donner un bain d'eau fraîche parce qu'il est atteint de la tuberculose. Alors l'enfant a pissé au lit, la sœur a dit, tu n'auras pas ta volée, mais tu vas avoir ton bain d'eau fraîche. Puis quand ils l'ont mis dans l'eau fraîche, l'enfant il est mort devant nous autres. Puis il avait 9 ans.
Ça, oui, M. pouvez-vous résumer un petit peu, en quelques mots, toute l'atrocité que vous avez vécue, là, vous comprenez?
Bon, on va continuer, là. Moi, à la salle, après ça, quand j'ai été transféré à la salle 4, pour la première fois, sœur de fève que Lionel a déjà connue, c'était une sœur qui était vraiment cruelle dans ce département-là. Je me rappelle qu'un moniteur qui m'a soulevé, il y avait des clôtures avec des pins pointues, puis il m'a tranché comme un couteau la cuisse gauche. Là.
Il l'a fait pourquoi, M. Labrosse?
Ben, rien qu'à cause que j'étais trop actif, là, comme on dit, là, pour me peiner, il m'a soulevé, puis là, ça saignait comme... ils ont été obligés de me faire un garrot, je mourrais d'eau. Et de là, quand je tombais à la salle 2, l'enfer continuait, mais cette fois-là, avec ça, Henri Robert, j'avais une volée à tous les matins, pas de bain d'eau fraîche, par exemple. Oui. Tout orphelin, là, qui avait plus que 3 coins, là, avait une volée. Puis souvent, j'étais victime de ça, là.
Oui, mais je veux savoir aussi, Selon vous, est-ce que la population québécoise connaît la slaverie, histoire des orphelins déplicis? Parce que...
La réponse est non, parce que Bruno Roy a erroné et falsifié l'historique des faits. Et je le dis publiquement, et le comité des orphelins a trempé avec les policiers de la droite, puis je ne m'imaginerai pas, ça a commencé avec Jean Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, après ça, ça a continué avec André Boclair, là, quand on est allé au Parlement de Québec en juin 92, quand on déposait une motion là, que le comité avait préparée à l'Assemblée nationale.
Monsieur Labrosse, vous avez refusé d'accepter les 15 000 $ que le gouvernement vous a offert pour...
Moi, c'est 21 750.
21 000, OK. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'avez refusé?
La raison, c'est que quand on a fait voter le décret, la quittance, il n'a jamais été lu. Alors, moi, je ne peux pas voter pour un décret ou signer pour un décret qui n'a jamais été soumis par écrit devant nous autres. C'est que l'année après, Francine Bergeron, 11 mois après qu'ils ont voté pour le décret, c'est de là qu'on m'a envoyé ça par courrier. Francine Bergeron était responsable avec le comité de la réconciliation d'envoyer qu'on appelle les décrets équitants. Après avoir lu le décret équitant, j'ai dit jamais que je signerai pour ça. Moi, j'étais 23 ans et 9 mois et 19 jours renfermé illégalement et pour la première fois, le public va connaître la vérité. J'accepte comme premier orphelin de mettre publiquement mon vrai dossier erroné que personne ne connaissait ici jusqu'à date au Québec.
Vous pensez que votre vie de 21 ans ou 23 ans d'être emprisonné dans une psychiatrie...
Psychiatrie. C'est qu'à la cage aux villes, on va revenir sur ce fait-là, tout enfant qu'on l'a brisé à des membres, il était exclu de l'adoption,
oui, c'est vrai.
On les classait à déficients mentaux.
Oui.
Alors, c'est depuis l'année qu'on va briser les membres, j'ai été exclu de l'adoption, et là, j'ai suivi ce qu'on appelle le règne de déficients mentaux jusqu'à l'heure de ma libération. Mais sauf que, moi, j'ai la preuve solennelle que l'État m'a kidnappé à ma naissance, sans l'approbation de ma mère biologique.
Oui. Mais vous, c'est-à-dire, si je reviens toujours sur la broche, je vous embête avec ça, c'est-à-dire que vous pensez que votre vie ne vaut pas 15 000 $
c'est ce que je comprends. Oh non, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de prix de ma vie. Là.
Et justement, pour ça, vous êtes aujourd'hui, je vous vois visiblement un malade, un peu trop affaibli aussi, et vous insistez à continuer votre combat. Pourquoi vous êtes
malade?
À quel âge avez-vous maintenant, M. Labrosse?
La plupart des gens m'ont appelé, puis on dit rien qu'une chose que les orphelins ne nous ont jamais soumis comme élément de preuve, c'est leur dossier d'internement illégal. Alors j'ai dit, là, je m'engage pour la première fois de soumettre tous ces éléments de preuve-là publiquement pour prouver que le gouvernement, partant de Duplessis, allait jusqu'à ma libération. Ceux qui ont trempé là-dedans ont menti devant la population du Québec.
Vous avez toujours refusé l'entente avec le Québec, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui s'il y aura une possibilité d'entente? Qu'est-ce que vous cherchez?
Moi, j'ai écrit au ministère de la Santé plusieurs fois et le ministère de la Justice du Québec, qui est à Bellemare dans sa... pas Bellemare, on veut dire Sèche-Ménard, et l'autre, c'est Paul Bégin. Et chaque fois, on décontournait, qu'on appelle, ce que je leur envoyais comme élément de preuve et comme grief. Et c'était le mot d'ordre. Puis quand on changeait de parti politique, il fallait recommencer à zéro. Alors j'ai fait ça pendant 48 ans. Trouvez-moi une personne sur la planète qui va être patient de continuer sa bataille, puis tenir tête contre les politiciens que des criminels, c'est pas moi qui est le criminel, c'est eux-mêmes qui sont criminels parce qu'ils refusent de reconnaître ce que j'ai subi dans mon enfance.
Ça veut dire, si j'ai bien compris, M. Labrosse, si je vois votre âge, quel âge avez-vous maintenant, aujourd'hui?
Je vais avoir 71 ans.
71 ans, M. Labrosse,
dans trois mois, le 19 août 1939.
C'est-à-dire, 71 ans, et le gouvernement est toujours en ralenti, et vous continuez un combat, peut-être vous n'arrivez jamais à la fin, finalement, vous comprenez?
Je vais l'atteindre ma fin, parce que je parle de déposer à la Cour supérieure au mois d'août, c'est officiel, là, le dossier historique de ma condamnation illégale.
Oui.
Et on doit aussi déposer au CV nouvelles, ceux qui n'ont pas signé le décret comme moi, puis Lionel Lambert, pour aussi poursuivre le gouvernement au civil.
Monsieur Labrosse, parmi vous, tous les orphelins, il y a des gens qui sont décédés déjà, hein, il y a des gens qui, des orphelins qui sont pas, qui sont morts à cette heure-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir la chance de lutter ou d'essayer de s'entendre sur son
compte. Moi, je vais être franc avec les gens. Plus qu'on va traîner, les policiers là-bas, c'est ça qu'ils veulent, plus qu'on va traîner le dossier, plus les orphelins vont rafisser et ils vont mourir au fil de la mesure. Là.
Exactement.
Bon, moi, il y a un point important.
Je veux savoir, juste avant de vous interrompre, pensez-vous que c'est le gouvernement, c'est l'attention qu'il a, il attend que tout le monde, ils vont mourir et puis le dossier va finir, être fermé ou quoi?
Le mien, il fermera pas, parce que le gouvernement a dit, pour pouvoir être dédommagé, il faut que vous ayez des éléments de preuve qu'on appelle des écrits, qu'on appelle des dossiers faits par l'institution. Alors, mon rêve est devenu réalité avant 1992, par exemple. Oui. Parce que j'aurais été après 1992, bye-bye, j'aurais jamais eu ces dossiers-là.
Écoutez, nous allons passer à une pause musicale et nous revenons avec un autre invité, M. Lionel Lambert, qui va nous raconter le traitement réservé à ces enfants victimes d'une mentalité alignée et un système politique détaché de la réalité de ses citoyens. Après...
Valérie aura 20 ans, éternellement, et son aura de printemps, nuage gris blanc, le vent l'emmène et le berce, elle vient à nous en averse. Souvenir vivant, bise d'un hiver de peine, retour souriant, dame de pensée ou de rêve, autant l'amène et l'enlève. À défendre ses couleurs, passe l'été. Demain demeure arrosée, toujours humide de rosée. Demain de père posé, pierre polie de baiser. Parfois de jeunesse, crois ton chemin va errer, vois l'initiale de vie, signée de l'oiseau en vol qui chantait ce jour du sol. 20 ans. Éternellement.
Bonjour, donc Monsieur Lionel Lambert, vous êtes libéré, si je peux vous dire le mot, je me permets, vous êtes libéré à l'âge de 21 ans.
À 21 ans.
Oui. Et vous avez quand même, ils vous ont informé que votre mère était encore vivante, à quel moment et qui vous a informé?
Moi, j'ai su à l'âge de 21 ans que ma mère était décédée.
Ah.
Elle était décédée. Elle avait 26 ans. Pour commencer, je suis né à Saint-Paul-d'Armeuil, baptisé le 6 mai 1937, envoyé à l'aide à la femme de 37 à 43, admis à l'école maternelle jusqu'à le 23 novembre 43, transféré à l'Ophina Saint-Joseph de Chambly-Bassin le 30 octobre 1944. J'ai été à l'âge de 7 ans chez les Sœurs Grises qui nous gardaient et j'ai connu Sœur Charlotte Lefebvre. Mais qui m'a surpris en prenant mon bain. Elle m'a attrapé le pénis. Elle m'a graffiné dans le bain avec un peu de sang. Et pour me faire mal, elle m'a pris la tête. Elle m'a le mis dans le fond de l'eau du bain pour me noyer. Sœur Charlotte Lefebvre, le 4 septembre 1951... Il m'envoie à l'école à Montréal, à l'Institut des Buissonnets, 171 rue Sainte-Catherine, aujourd'hui la place des Arts.
Okay.
J'ai été frappé à la tête à la mi-octobre 52, l'oreille droite. Mon cauchemar pour la vie, plusieurs opérations du moniteur qui m'a frappé, Jean-Charles Desjardins.
Oui, mais c'est bien, mais M. Lionel Lambert, si je résume, la position de l'Église avec les paroles du cardinal Jean-Claude Turcotte, qu'il disait en 1999, au lendemain d'une grande manifestation à laquelle vous avez participé, il disait « Ce qui me met mal à l'aise chez les enfants de Duplessis, ce que je leur reproche, c'est qu'ils demandent des excuses et des compensations financières, je suis mal à l'aise avec ça, on s'excuse quand on a fait des choses ». Qu'on savait mauvais. Ce n'est pas le cas des communautés religieuses. Les orphelins n'étaient pas des lieux où on battait les enfants et abusait d'eux. Je regrette, je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que vous disiez de ça quand vous...
J'ai écrit une lettre au cardinal Turcotte.
Non, mais ce qu'il raconte ici, est-ce que c'était vrai? Qu'est-ce que vous pensez?
C'est un chiffon, il a menti.
Oui.
C'est des mensonges de A à Z. Monseigneur Turcotte, il n'a pas passé, jusqu'à une zone de passé, les enfants. On s'en prenait aux enfants pour nous faire du mal, puis dire qu'ils nous faisaient du bien en hypocrite, t'as pas vrai ça. On nous faisait du mal.
Mais vous, quel genre de mal? Pouvez-vous nous dire?
J'ai eu une claque à l'oreille.
Oui.
Et puis...
Le traitement.
J'ai tombé à terre dans le réfectoire. Il y avait un petit gars à côté de moi qui avait ses parents. Au lieu de punir le petit gars qui avait parlé...
Attends, on va prendre une pause et on revient deux secondes.
Nuit Blanche, l'émission qui bouge et qui dérange. Tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin. Là où le hip-hop vit à Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Oh oh! Avec Dice B, Cabernet Baby. Yeah.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centre-Ville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi!
Ça fait déjà 5 ans que je veux t'en parler.
Vous en avez marre de luncher au son, de musique et de propos insipides. Radio Centre-Ville vous offre une solution, le magazine Centre-Ville dès 11h30 du lundi au vendredi. Faites le point sur l'actualité communautaire, sociale, politique, économique et culturelle. Au son des meilleures chansons francophones d'ici et d'ailleurs et des plus dynamiques rythmes du monde. C'est un rendez-vous du lundi au vendredi de 11h30 à 13h sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamoki, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
54, la maison a passé au feu le soir. Il neigeait beaucoup.
Oui, vas-y, monsieur.
On a passé au feu en hiver, et puis toute la maison était détruite, tout ça. Et puis après ça, on m'a transféré à Boucherville sur une autre ferme. Là aussi, j'ai pas trop été bien là, traité là, à Boucherville, tout ça.
Mais vous avez travaillé sur les fermes combien de temps, monsieur Léon Alonso?
10 ans.
10 ans. Vous étiez payé pour ça?
Payé à bas salaire.
Ah, ok. Mais parce que moi, quand j'ai rencontré d'autres orphelins, il y a ceux qui n'ont jamais été payés.
J'étais payé à bas salaire.
Mais si on revient à ce cultivateur, là, il est bien important de nous enseigner. Oui. Lucien Desroches, j'ai travaillé sur sa femme à lui, à Saint-Esprit, et lui-même disait, nous avons le pouvoir de vous tuer. On a le pouvoir aussi de faire qu'est-ce qu'on veut. Et si vous devenez supérieur à nous autres, on appelle immédiatement la police provinciale et de là, on va vous chercher sa femme puis on vous envoie direct à l'LB à Bordeaux. Ça veut dire qu'on ne passera pas à la cour de la jeunesse pour se défendre là-dessus. Et je sais que Lucien Desroches disait aux autres cultivateurs, mettez les envoyés à Soleil dehors, puis prenez des orphelins parce que c'est plus rentable parce que le ministère des Affaires sociales a tous les mois envoyé un chèque pour le nombre d'orphelins que le cultivateur. Plus qu'il y avait d'orphelins, plus c'était payant pour lui. Et quand l'inspecteur passait pour venir voir les orphelins, on ne le voyait jamais. Le cultivateur prenait une enveloppe avec de l'argent, on se verra le mois prochain. Jamais qu'on voyait le travailleur social venir nous interroger comment qu'on était traité sa femme. Puis moi-même, j'ai été obligé en mai 1962, de faire une grève sur la femme de Lucien Desroches. J'étais le premier qui a déclenché une femme. Une grève, là, on a dit à Lucien Desroches, devant les trois autres orphelins, personne ne va travailler jusqu'à temps que les politiques d'agressivité ou d'esclavage ne seront plus abolis.
Vous êtes révolté,
alors, on veut négocier de nouvelles ententes avec vous où il n'y a rien qui se fera sur sa femme. Alors, lui, il a été renfermé dans sa chambre pendant 3 heures, et après, quand il est sorti, il a tout accepté les conditions qu'on lui a soumises devant lui, puis il a tout pris pareil. Puis là, me suis engagé que le plus vieux orphelin aura le samedi, le deuxième dimanche, le troisième lundi, puis le quatrième. Mais je m'engage que l'ouvrage va se faire comme si les quatre orphelins sont là.
Ah oui, voilà. Donc, pour vous, M. Nolombert, le travail sur le champ...
Il y a un sujet d'agression sexuelle. Il y a ça, Charlotte Lefebvre. Oui. Elle apprenait les petits gars un par un. Celle-là, elle choisissait. Puis ils emmenaient dans sa chambre. Elle était déshabillée flambant nue, puis le petit gars flambant nue, parce que je couchais avec un petit gars de 9 ans, 10 ans.
Oui, elle aimait le spectacle, j'imagine, oui.
Oui, c'est ça qu'elle faisait sur Charlotte Lefebvre. Puis moi, j'ai refusé la quittance, parce que c'est trop grave qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Un petit 15 000 $ pour signer une quittance, nous faire fermer la trappe. Le gouvernement puis les bonnes sœurs. Moi, je me fermerai pas à trappe.
Mais pourtant, le comité qui était présidé par monsieur
Bruno Roy.
Il a toujours dit qu'il ne voulait pas négocier publiquement.
Ouais, puis en plus de ça, on a appris avec le temps, par un écrit, que Bruno Roy recevait 1000 $ par jour, exactement comme l'équipe de Francine Fournier, qui leur donnait 1000 $ par jour aux trois personnes qui étaient là, Boudreau, Lemoine et Francine, qui faisaient un total de 15 000 $ par semaine pour eux autres. Bruno Roy, 1000 $ par semaine. Les orphelins étaient mis au courant de ça. On a fallu mettre la main sur un article qu'on a présentement entre nos mains, là, qui va prouver. Et le comité actuel, là, Jean Nolet, n'est pas placé ni Yvon Chicoine, là, parce que le comité des orphelins, depuis la mort de Bruno Roy, continue à passer des politiques en allant chercher des subventions gouvernementales. Là, il est temps, les politiciens de la gauche là, interviennent, là, comme Kadir puis bien d'autres, là, dire là, c'est assez, c'est une gang de crosseurs qui dirige le comité des orphelins. Ils ont jamais travaillé pour le bien-être des orphelins.
Oui.
Alors.
Oui, mais M. Lavrois, je veux savoir, c'est-à-dire vous disiez que pour une année
d'être... L'indétention, c'est 1 000 $ par année.
Vous disiez que 1 000 $ pour une année. Et vous reprochez comment les autres, ils avaient 1 000 $ par jour. C'est
par
ça,
jour,
c'est
ça, bien ça.
Oui, M. Lina Lambert.
Quand on était jeunes, nous autres, là, on nous a volé notre enfance, on nous a volé notre jeunesse, on a volé nos vies, on continue à nous voler, à nous mentir, à nous faire souffrir de toutes les atrocités qu'on a eues. Tout ça. Moi, je n'ai pas accepté 15 000 $ c'est pour ça.
Mais qu'est-ce que vous allez accepter, vous? Qu'est-ce que vous cherchez derrière tout ça?
Qu'on applique la vraie justice.
C'est quoi la justice que vous cherchez?
Qu'on reconnaît les souffrances, les injustices qu'on a vécues depuis notre naissance.
Mais dans l'entente qui était avec, qui était rendue, est-ce qu'il n'y avait pas une reconnaissance dans le...
Aucune reconnaissance. Pour moi, il n'y avait aucune reconnaissance. Quand tu lis le décret un an après, et la quittance, tu t'aperçois que ça va à l'encontre de tes droits, là. Ça prend un imbécile pour voter et accepter un décret, une quittance, comme la plupart ont fait en 2001, sur l'ordre de Bruno Roy et Yves Lauzon.
Mais pourtant, combien d'orphelins ils ont signé cette...
Personne n'a signé. Ça s'est fait à main levée, puis d'après les renseignements que je tiens, c'est illégal. Les gens qui avaient voté pour ça, devaient tout signé.
Ils ont signé sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de signer, quoi, je comprends pas.
Ben c'est normal parce qu'on n'a pas lu le décret ni la quittance. Comment vous voulez signer pour accepter un décret ni une quittance s'il n'a jamais été lu?
Oui, mais M. Labrosse, là je comprends, mais moi j'ai rencontré d'autres orphelins et nous avons aujourd'hui avec nous M. Henri Barnabé qui a accepté les 15 000 $, c'est-à-dire qu'il a signé, je me demande et on va lui poser la question après.
C'est à lui à s'expliquer, oui. Non à moi. Là.
Écoutez, on va prendre une pause musicale et on va revenir avec M. Barnabé qui va nous éclaircir un petit peu sur ce sujet-là.
Le bateau qui coule n'a plus de chance, il part au loin et pleure, il sombre et meurt, coule vers les profondeurs. Et comme la brume, distraite, épanouie, qui sévit là, on ne sait où, qui va dans la nuit lourde, il part au loin et pleure, il sombre et comme la brume se plante là, demeure et puis meurt. Mais il est trop tard, le bateau coule et pleure. Il vient d'on ne sait où. Thank you.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, on va continuer notre sujet. Et je vais, Monsieur Henri Barnabé, vous êtes orphelin victime de cette époque et vous avez accepté la somme de 15 000 $ offerte par le gouvernement. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Si oui, pourquoi vous l'avez accepté?
Moi, pour ma part, je comprends Monsieur Labrosse. Je comprends Monsieur Labrosse et Monsieur Lambert par rapport que justement. On n'a pas pu voter justement sur le décret, parce que le décret, il n'était pas sorti encore. Il a été sorti, le décret, le 14 octobre 2001, puis tandis que le vote, on a voté le 30 juin 2001. Et puis aussi, moi, pourquoi je l'ai pris, parce que je savais qu'un jour, on pouvait aller au fédéral, parce qu'il nous avait dit qu'on pouvait poursuivre le fédéral, parce qu'on était sous la tutelle du fédéral. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils nous ont envoyé un formulaire pour remplir, je me suis aperçu, quand ils nous ont envoyé le formulaire, remplir le formulaire, là, j'ai reçu la quittance, puis là, je me suis aperçu dans la quittance, c'était pas la même chose qui était dans le décret. C'est-à-dire que dans le décret, c'était pas marqué que le gouvernement, qu'on signait une quittance pour le gouvernement fédéral, tandis que dans la quittance, c'était bien marqué qu'on signait pour dégager le fédéral. Fait que nous autres, on était sous la juridiction du fédéral parce qu'on était justement des débiles mentales. Fait que moi, comme que je vous dis.
Mais M. Barnabé, avant de vous continuer, mais quand même, vous avez 15 000 $, c'est absolument rien du tout. Comment vous avez pu mettre la main, c'est-à-dire accepter les 15 000 $? Ça, ce qui est. Moi, ça, vous avez réellement vécu de l'atrocité, tout ce que j'ai entendu, j'ai lu, et puis j'ai rencontré des orphelins qui m'ont raconté des choses qui étaient atroces quand même. Comment vous avez pu, vous et d'autres personnes, qu'ils ont accepté les 15 000 $?
On n'avait pas le choix parce qu'on a levé le couteau en dessous de la gorge. Tu signes ou ben non que tu n'avais pas le 15 000 $ puis tu n'avais aucun recours après ça.
Mais c'était mieux pour, dans la position que j'ai de M. Labrosse et M. Lionel Lambert, et je pense que ils ont quand même mieux agi parce qu'ils expriment leur position, vous comprenez?
Oui, mais j'ai respect les autres aussi, mais moi, il faut aussi que vous me compreniez. Quand que vous êtes rendu, vous avez quoi, c'était en février 2008 que j'ai accepté ça. Fait que quand que, je vais vous dire une chose, les orphelins, là, en 2008, là, quand tu passes 70 ans, il n'y en a pas beaucoup qui vivent.
C'est ça, parce que moi j'avais rencontré quelqu'un qui me disait, j'acceptais 15 000 $, peut-être que je vais même pas, c'est mieux de vivre avec 15 000 $ le temps que je vais mourir, donc il n'était pas certain qu'il va continuer à vivre 2-3 années dans, encore, vous comprenez?
D'abord, il y a beaucoup d'orphelins qui n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu que c'était 1 000 $. Fait que 15 000 $ tombés comme ça, c'était, j'ai compris pourquoi ils ont signé. Moi, je l'ai signé par rapport que j'avais un recours au fédéral, mais là, quand que je me suis aperçu que dans la quittance, mais là, j'avais pas le choix, j'avais fait la demande, puis je l'ai signé. Mais, qu'est-ce que tu veux, il m'a même pas duré 6 mois, ce 15 000 $-là, parce que j'ai payé mes dettes et puis toutes ces choses-là. Mmh. Fait qu'à fin du compte, j'avais pas le choix. Et puis, comme je vous ai dit, la loi de 1850 à 1950, c'était la loi des débiles mentales. Fait que nous autres, en étant à 7 ans, on était déclarés débiles mentales. Ça, c'était à l'âge de raison. Tu pouvais faire la différence entre le bien et le mal.
Mais jusqu'à présent, vous êtes toujours... officiellement, vous êtes toujours débile mental.
Je suis toujours débile mental.
Oui.
Excusez-moi, là, je suis obligé de le dire parce que je suis sous la tutelle du fédéral. Oui. C'est parce que les autres ont reconnu, justement, que vous voyez la réconciliation, ça part de 1935 à 64, c'est reconnu par la réconciliation comme quoi qu'il y avait des orphelins qui étaient déclarés faussement débiles mentales par le gouvernement pour 1,5 piastre par jour. Ça, c'est très grave. Les sœurs, elles pouvaient pas, avec 1,25 piastre par jour par le Québec. Fait qu'ils sont revirés de bord. Ils ont été voir le fédéral pour demander justement pour les orphelins. Mais nous autres, on n'était pas sous la juridiction du fédéral au point de vue d'orphelin, mais les débiles mentales, eux autres, ils reconnaissaient les débiles mentales.
C'est-à-dire, M. Barnabé, c'est-à-dire, à leur liberté, les orphelins déplacés à 21 ans, 24 ans, quand ils se sont libérés, ils sont tous allés avec ce statut de débile mental qui ne permet pas, malheureusement, de travailler et de vivre, quoi.
Oui, justement. Moi, je me suis aperçu quelque chose. Une fois, j'avais été aux États-Unis, puis ils m'ont refusé
L'entrée, oui, pour oui. Par.
Ben moi, après ça, on pourrait dire, là, je me suis aperçu la raison pourquoi. C'est par rapport, justement, j'étais un débile mental. Et puis, aussi, on était reconnus comme des bâtards par la société. Madame. Parce que, moi, je vais vous dire une chose, que quand tu vis à 7 ans, tu t'en fais pas trop. Mais quand que tu arrives à l'âge de 18 ans, puis encore, tu travaillais sur des fermes. Moi, j'ai travaillé pour 5 piastres par mois. OK, on payait notre nourriture, mais on avait 50 cents par semaine de dépenses. Fait qu'à fin du compte, quand vous dites ça rejaillit sur toi, puis c'est tes enfants, moi, aujourd'hui, si je le savais, je ne me serais pas marié.
Pourquoi?
Parce que j'ai subi quelque chose d'affreux. Quand que ma fille a été en cours, elle a été, comme on pourrait dire, déclaré inapte par rapport que son père c'était pas dans ses gènes, mais c'était par rapport que son père était débile mental en étant jeune. Ça s'est rejeté sur elle. Ça m'a fait tellement de peine de voir que ça continuait cette chose-là.
Ça devient vos enfants, ils sont en train de subir le.
Oui, on subit, oui. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je me serais jamais marié d'avoir su que si ça va, ça serait rejeté sur mes enfants.
Ça, c'est en quelle année c'était arrivé que votre.
Ça, c'est arrivé en 2003.
En 2003,
ouais,
oui.
Pour un petit enfant.
Ma petite, pour la garde de l'enfant.
Oui, la garde de l'enfant. Il disait que la mère était inapte.
Qui vous a reproché, à votre fille comme quoi son père était.
Le père, justement, mais le père, moi, en étant débile mental, puis elle ne savait pas comme quoi qu'elle était pour être dit qu'elle était inapte pour élever son enfant par rapport que son père était déjà débile mental. Ça y a fait un coup terrible. Enfin, c'est pour ça que je dis.
C'est grave, monsieur, mon avis, ce que vous disiez, parce que réellement, on s'aperçoit jusqu'à où ça continue, même les enfants, peut-être d'autres générations qui vont, et d'autres générations qui vont souffrir de le même cas,
oui.
Quoi.
Mais aujourd'hui, là, nous autres, c'était comment tu les appelles, là, des psychiatres. Aujourd'hui, c'est plus des psychiatres, c'était remplacé par la DPJ. La DPJ c'est aussi dur aujourd'hui que dans notre temps aussi pour des enfants, justement, qui sont sur la DPJ, parce qu'ils vont jusqu'à l'âge de 21 ans. Nous autres, l'âge majeur, dans mon temps, c'était 21 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Quand tu dis qu'on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas de responsabilité, ils nous enlevaient nos droits jusqu'à 21 ans. Puis au bout de 21 ans, là, ils nous envoyaient dans la rue. Là je ne comprenais pas ça. On était débile mental, puis je le savais par rapport que j'étais pas un petit gars comme les autres. Mais d'apercevoir les enfants me regardaient, et puis je voyais moi-même que j'ai commencé à 9 ans la première année, puis à 12 ans, j'avais une petite troisième année, et puis déjà, j'allais à l'école, puis les autres, moi j'avais 12 ans, puis les autres avaient cette valeur de dire, ils avaient 9 ans, puis ils étaient déjà dans la cinquième année. Puis moi, j'étais dans une troisième
année. Mais ils ont interdit d'aller à l'école ou
c'est ça, parce la loi de débile statut, mental.
Oui, vous pouvez pas. Oui, c'est ça.
La loi de débile mental, à l'âge de 7 ans, comme je vous ai dit, défendait. On n'avait pas droit à l'adoption. On n'avait pas droit à l'instruction. Puis à l'âge de 12 ans, on était placé sur des terres à travailler, ou bien non dans des maisons privées, ou bien non dans des institutions à travailler pour gagner notre pitance. Fait que. Beaucoup des orphelins n'ont pas été payés. Moi, j'ai eu, pendant 7 ans, 1200 pièces réparties dans 7 ans. Quand j'ai parti, ils m'ont donné 1200 pièces. J'ai été un des orphelins qui a été très chanceux parce que la madame, elle voulait m'adopter, mais elle m'a pas pu m'adopter parce que elle savait que j'étais un enfant débile mental. Puis quand elle va venir me voir, ils nous avaient habitués, les bonnes sœurs, de dire papa, maman. Fait que là, les parents, les dames et les messieurs venaient nous voir, on les appelait papa, maman, pour qu'ils nous emmènent.
Oui.
Nous faire adopter. Mais moi, j'avais pas le droit. La madame a dit, lui, il a pas le droit parce que
son statut est différent.
Son statut, justement, il a pas le droit.
Bon, mais monsieur,
parce que c'est important. Là.
Quelque chose, oui?
Oui, parce que moi, je veux revenir là, impliquant les agressions sexuelles. Oui. avant de parler des agressions, j'accuse à nouveau le comité des orphelins d'avoir été de connivence avec les politiciens de la droite qui impliquent Bruno Roy et Yves Lauzon. Là, concernant les agressions sexuelles, moi, j'ai porté des plaintes contre Estelle Gravel parce qu'elle a menti sur les déclarations que j'avais soumises devant elle. Elle a erroné et falsifié mes déclarations, puis j'ai un témoin qui était avec moi à part de ça, qui était témoin quand la police est venue prendre mes témoignages.
Chez vous, à la maison, ça?
Oui. Puis on m'a convoqué aussi au palais de justice de Montréal aussi pour un deuxième témoignage. Faut voir si tout était bon. Là, après ça, moi, j'ai dit à Estelle Gravel, vous avez arrêté votre enquête à la salle Saint-Louis-Gonzague. Vous saviez que le viol d'un enfant qui était à Gérard Bastion avait été transféré à la salle Saint-Anistal de Costco, qui était interdit à la police de Montréal d'aller enquêter à l'intérieur de ces gens-là, de ces institutions-là à propos des viols d'enfants. Parce qu'ils étaient complètement indépendants, qu'on appelle la police.
Oui.
Alors, c'est eux autres qui disaient s'ils pouvaient continuer à garder le violé d'enfant ou le mettre dehors. Puis j'ai été violé par 5 moniteurs. Puis j'accuse Estelle Gravel d'avoir menti comme procureur. Puis chef Ménard qui avait rejeté les 321 plaintes.
Oui, Monsieur Lionel Aubert, vous avez voulu ajouter quelque chose aussi
oui,
au sujet?
Au sujet de Monsieur Bruno Roy, le 16 octobre, j'ai parlé au sujet de qui nous a mis dehors le 30 juin 1900, en 2001, sans la permission. Il nous a acheté le dessus qui n'était pas déclaré, ils ont peinté des institutions psychiatriques, ils nous ont mis dehors. Oui. Sans raison valable. J'ai dit ça à Bruno Roy le 16 octobre l'année passée.
Il vous a refusé la participation ou quoi?
Non. D'abord, c'est oui. Tout. Mais sans la permission, rien, sans main levée, rien dehors. Il dit, vous formerez un autre groupe. J'ai remis sur le nez le 16 octobre dernier.
Parce que vous n'étiez pas d'accord, c'est ça ce que je comprends?
Oui. Il a dit que c'est pas vrai qu'il a dit ça. Tous les orphelins sont venus, puis on dit à Bruno Roy, c'est vrai que t'as fait ça.
Oui, oui.
Ça, c'est injuste. Lauzon puis Bruno Roy, même Lauzon, j'ai dit dernièrement que Bernard Landry, Lucien Bouchard, il y avait de la famille religieuse dans leur famille,
oui.
Et c'est pour ça qu'ils nous ont bannis.
Oui, je comprends. Monsieur Labrosse, moi je retourne à vous. Pour votre livre, vous êtes en train d'écrire un livre présentement, et
oui.
Mais pourquoi vous êtes en train de le faire?
Ben, je veux que la population connaisse réellement la vérité. Ouais. Jusqu'à date, ils ont toujours connu le mensonge. On dit assez, c'est assez. Quand mais on mais accuse les orphelins...
Quand vous disiez que jusqu'à présent, il y a toujours des mensonges, vous avez quand même rédigé deux livres déjà qui racontaient aussi l'histoire des orphelins déplacés. Donc, il y a quand même une partie de réalité qui est là, je ne me trompe pas.
Oui, ça a été un succès, mais il y a eu un problème, là. C'est parce que Bruno Roy et son équipe étaient payés pour dire à la population, ah, ben, les orphelins cherchent à mentir, ils cherchent à vouloir charrier, et etc., etc.
Ouais.
Quand on cherchait à dire la vérité, nous étions des menteurs. Non, le public disait souvent...
Écoutez, M. Labrosse, une chose qui est certaine, c'est-à-dire un accord de 15 000 $ une offre de 15 000 $ pour une vie, ça c'est tout à fait...
Ça n'a pas de prix. Ah ben non, là.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à la génération qui vient là?
Ben, je veux que la génération d'aujourd'hui puisse prendre à cœur les vrais témoignages. Qu'on arrête de dire que les orphelins cherchent à charrier ou à manipuler la population. Moi, j'en ai marre des gens qui font de même. J'appelle ça des assis d'imbéciles.
Ouais. M. Bouchard, l'ex-ministre, il disait que c'est mieux de l'effacer, cette partie de l'histoire. Est-ce que vous...
Qui mange la merde, Lucien Bouchard, parce que lui, il a trempé dans l'affaire, y compris Bernard Landry. Alors, s'ils veulent me poursuivre, je leur ai offert de me poursuivre devant la justice.
Il y a personne qui va poursuivre.
Ils n'ont jamais osé jusqu'à date.
Pour vous, c'est une partie de l'histoire qu'il faut la garder.
C'est ça.
C'est
ça.
Monsieur Barnabé, j'aimerais bien que vous ajoutez...
Moi, je vais revenir justement à Bruno Roy. La grosse erreur qu'a fait Bruno Roy, c'est d'essayer de nous avoir divisés. On pourrait dire comme les institutions en psychiatrie.
Ouais.
Puis les celles qui ont été toutes... On est toutes... comme je l'ai dit, je fais le... je vais vous corriger, M. le Président, quand vous avez dit tout à l'heure que de 15 à 20 000 orphelins.
Oui, excusez-moi.
Ça, c'est de 15 à 20 000 orphelins de 1935 à 64 qui ont été déclarés débiles mentales.
À 64, pardon, oui.
Qui ont été déclarés débiles mentales.
Débiles mentales, OK, oui.
Il y a eu plus que ça.
Merci, madame.
Débiles mentales, qu'est-ce qu'on sait, c'est de 15 à 20 000 orphelins. Fait que c'est pour ça que Bruno Roy a joué le jeu de la politique en scindant les orphelins du Plessis, les celles qui étaient internées, puis les celles qui étaient externes. Il y avait les internes puis les externes, mais qui ont été déclarées débiles mentales, la même chose.
Oui.
Ce n'est pas mieux sur les terres des orphelins quand on était battu. Même il y avait des enfants, là, je vous dis, là, moi je connais une personne, puis elle peut venir certifier qu'il a monté au fait d'en haut de la rampe, puis il s'est jeté en bas.
S'est suicidé?
S'est suicidé, oui. Parce qu'il avait pu. Il n'avait plus le courage de vivre, il était usé, fini. Quand on était usé, il nous sortait de là, puis il disait, viens chercher ton petit bâtard,
oui.
Viens chercher ton bâtard, puis on va le... En ramène-moi un autre. Là, il en ramenait un autre.
Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement va rectifier l'erreur, soi-disant, de surtout l'histoire de Bible mentale, là,
c'est comme... Oui, ben, moi, c'est comme je dis, c'est, moi, je ne l'ai pas demandé d'effacer mon débile mental, c'est parce que c'est eux qui m'ont... qui m'ont faussement déclaré débile mental à l'âge de 7 ans.
Ouais.
Comme tu l'as dit tout à l'heure.
C'est
pour ça que moi, je ne paye pas un psychiatre pour me dire aujourd'hui, je suis du jour au lendemain. À 21 ans, ils m'ont mis dans la rue et ils ont dit, t'es correct.
Oui.
Tu veux monsieur, sûr, oui, parce que c'est bien important. Ben,
j'imagine s'il déclare, s'il accepte cette correction, il se déclare coupable lui-même, le gouvernement.
L'ancien hôpital Saint-Michel-Archange, les Sœurs Grises étaient de connivence, qu'on appelle avec le ministère des Affaires sociales, pour placer des orphelins comme esclaves à l'Île-Orléans, Lévis, Lauzon, Saint-Romuald, Giffard, Beauport et Sainte-Foy. Et quand l'orphelin était brûlé, parce que les Sœurs Grises recevaient un montant d'argent à tous les mois de ces cultivateurs-là. Et quand un orphelin mourait sur la ferme, on y allait chercher le cadavre, ni vu ni connu. Puis quand on tue un orphelin sur une terre, ça dépend où...
Un cimetière, j'imagine, à côté.
Ah oui. Oh, mais il faisait disparaître aussi. Ni vu ni connu. C'est comme si l'orphelin n'avait jamais existé. Dans mon temps,
on n'avait pas de statut social. Oui. C'est pour ça qu'on n'existait pas.
Monsieur Lambert, je vous donne une minute, même quelques secondes pour dire un dernier mot.
Je sais que les orphelins, quand ils mouraient, ils les mettaient dans une fosse commune.
Oui.
OK. Monsieur.
C'est pour ça, moi, je veux rétablir justement, je les comprends, les autres, puis je m'en vais. On va continuer leur bataille. Parce que c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces orphelins-là, de les avoir ôtés, les avoir leur dignité en les disant qu'ils étaient débiles mentales. Ça, c'est très grave, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Monsieur...
Moi, le plus beau cadeau que la société va me faire, là, je demande à la population qui ont eu connaissance du 1435 de Grammeuse, je veux retrouver mes demi-frères et sœurs, parce que ma mère biologique est morte en 2006, puis j'aimerais que ceux qui sont encore vivants, qui se rappellent de cette adresse-là, de m'emmener à mes 22 demi-frères et sœurs.
Merci, ça c'est Jean-Guy Labrosse. Donc malheureusement, c'est tout ce qui nous reste de notre temps. N'oublie jamais que l'histoire n'est pas faite pour être effacée, et c'est au contraire. Il faut la conserver et reparler pour que de tels événements ne se répètent plus jamais. Merci à nous inviter, de nous avoir éclairés le mieux possible, et merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir accordé la parole sur ces ondes pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs.